Nous avons compris donc les deux venues de Christ. La première fois comme le sauveur du monde. Une deuxième fois, il va venir comme le juge du monde. Pour ensuite régner en justice et en paix sur cette terre pendant 1000 ans. Et voilà, entre deux, Israël à la dispersion et la bonne nouvelle, l'évangile pour toutes les nations. Et après la première venue de Christ, le peuple juif a été dispersé dans le monde entier et les prophètes ont annoncé dans la période avant la venue de Jésus-Christ, le Messie, comme le juge du monde, le peuple juif va être rassemblé de tous les pays au pays des ancêtres. Voilà. Il y avait clairement les promesses déjà dans l'Ancien Testament. Le prophète Amos, au 8e siècle avant Jésus-Christ, a reçu cette prophétie de Dieu, chapitre 9, 14. Dieu parle. « Et je rétablirai le sort de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées et y habiteront. Et ils planteront des vignes et en boiront le vin. Et ils feront des jardins et en mangeront le fruit. » Par exemple, les oranges des jardins. Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. Et ils vont revenir, ils vont rebâtir les villes au pays des ancêtres, et ils ne vont plus jamais partir. Ils ne vont plus jamais partir. C'est Dieu qui l'a dit. Celui qui s'oppose à cela s'oppose à Dieu. Dans Ézéchiel 36, 24, Dieu a dit au 6e siècle, « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Mais pendant 2000 ans, c'était impossible. Dans le passé, c'était impossible pour un peuple dispersé dans le monde entier de retourner, parce qu'on a fait des essais. Et pendant le voyage, par exemple, beaucoup sont morts. Mais le sort a commencé à changer en 1882. Là, les Juifs en Russie étaient persécutés dans cette période par les derniers tsars de la Russie. Et voilà, cela a stimulé des milliers de retourner en Palestine, comme on appelait à l'époque le pays d'Israël. Voilà la première vague d'immigration, 1882 jusqu'à 1903. Voilà l'immigration, en hébreu, Aliyah, de Russie. Environ 25 000 personnes viennent, mais il y a eu une résistance arabe dès 1882. Lisons dans le prophète Jérémie 16, 14, vers 600 avant Jésus-Christ, écrit. C'est pourquoi voici des jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus. L'Éternel est vivant qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte. Pour jurer, on utilisera un autre terme qui sera encore plus grandiose que l'exode de l'Égypte sous Moïse. Mais l'Éternel est vivant qui a fait monter les fils d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Et je les ramènerai dans leur terre que j'ai donnée à leur père. Et voyez, est venue la première immigration directement du pays du Nord extrême, du pays du Nord. C'est remarquable, n'est-ce pas? La deuxième vague d'immigration, 1904 à 1914, là, de nouveau, 40 000 personnes viennent de Russie, mais aussi de Pologne. Ésaïe 43, verset 6. Je dirai au nord, donne, amène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre. Oui, le nord, c'est pas le Liban, hein, ou la Syrie. C'est vraiment du bout de la terre. Ils sont venus de la Russie. Au pôle Nord, il n'y a personne. Mais tout d'un coup, une interruption par la pire des guerres qu'on a vues dans l'histoire mondiale jusqu'alors. 1914 à 18, la Première Guerre mondiale. Et voilà, pendant cette guerre, l'Empire ottoman, des Turcs, qui dominaient d'ailleurs tout le Proche-Orient, s'est mis aux côtés de l'Allemagne. Et cela a provoqué donc les alliés français, anglais, contre les Ottomans. Et ils ont attaqué l'empire des Turcs et ils l'ont détruit. Les alliés anéantissent l'empire ottoman. Et pendant cette guerre au Proche-Orient, les Anglais et les Français font la conquête, entre autres, de la Palestine. 25 000 morts, seulement pendant le combat pour conquérir Jérusalem. Une guerre terrible. Et pendant cette guerre, les Anglais ont publié la déclaration de Lord Balfour, qui, au nom de la nation anglaise, écrit « His Majesty's Government, you will favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. » Alors les Anglais expliquent, ils ont à cœur d'établir donc un État juif en Palestine. Incroyable. D'abord, ils font la conquête de la Palestine, ensuite ils disent, et maintenant, on va créer une nation juive, une nationalité juive sur ce terrain. Pourquoi les Anglais ont dit ça? Vous voyez, pendant la guerre, les Allemands étaient excessivement forts. Et les Anglais ont compris qu'ils vont perdre la guerre mondiale. Ils ont réalisé qu'il faut faire une nouvelle invention pour produire plus vite de la matière explosive. Et voilà, un chimiste anglais, le docteur Weizmann, a fait cette invention pendant la guerre. Et par cette invention, l'Angleterre a pu être victorieux sur les Allemands. Alors on a dit à M. Weizmann, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme cadeau? Parce que à cause de vous, la guerre mondiale a changé. Il a dit, j'aimerais un territoire pour mon peuple. Parce que Chaim Weizmann était un juif anglais. La raison pour cette déclaration de Balfour. Après la Première Guerre mondiale, on a fondé la Société des Nations pour éviter qu'une guerre mondiale, c'était la première depuis toujours, se répète. Et voilà, en 1920, la Société des Nations confie le mandat sur la Palestine à l'Angleterre. L'Angleterre devrait être donc le chef sur la Palestine pour voir comment on veut construire l'avenir de ce territoire. Et maintenant, il faut savoir la chose suivante. La Palestine était ceci. Sous le terme Palestine, à l'époque, on a compris ce qui est aujourd'hui Israël, avec tous les territoires dits occupés, comme Cisjordanie, la bande de Gaza et toute la Jordanie actuelle. Ça, c'était la Palestine. J'insiste parce que les journalistes, semblent, ils ne le savent pas aujourd'hui. On ne dit jamais que ça, c'était la Palestine. Et le pire va encore venir. D'ailleurs, tout le monde qui habitait dans ce territoire, on a appelé Palestinien. Parce qu'un peuple palestinien, ça n'existait pas. Il existait des Arabes, donc des gens qui parlent l'arabe, sont des Arabes. Il y avait des Juifs en Palestine, et ils étaient aussi des Palestiniens. Donc tous, Juifs et Arabes, dans ce territoire, ont reçu des Anglais une carte d'identité avec le titre palestinien. Par exemple, une dame qui s'appelait Golda Meir, elle avait une carte d'identité, elle était palestinienne. Bien sûr, c'était une juive. Il y avait un journal qui s'appelait The Palestine Post, plus tard Jerusalem Post. C'était un journal juif en Palestine. Il y avait un orchestre, Palestine Symphony Orchestra. C'était un orchestre juif en Palestine. Et donc les Arabes, ici à l'est du Jourdain, en Jordanie actuelle, ce n'étaient pas des autres Arabes que les Arabes de l'autre côté. C'était simplement des Arabes. Et puis on a appelé tous Palestiniens. Mais en 1921, l'Angleterre remet 77% de la Palestine à l'émir Abdullah et on appelle donc ce territoire Transjordanie. Parce que les Anglais se sont dit, oui, on veut donner aux Juifs la possibilité pour établir un État en Palestine, mais aussi les Arabes doit aussi avoir dans ce territoire un État. Alors, on a trois quarts consacrés pour un futur État palestinien arabe. Ce territoire a reçu l'indépendance des Anglais en 1946 et depuis, juste après, on a donné le nom la Jordanie. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il faudrait un État pour les Palestiniens, vous devez dire, mais il y a déjà. Où? En Jordanie. Ah bon? Depuis quand? 1946. Mais combien de territoires? Trois quarts. Mais on parle toujours d'un futur État palestinien. Oui, bien sûr. Un deuxième. N'est-ce pas? Les journalistes ne parlent jamais d'un deuxième. Ils parlent toujours d'un futur État palestinien. Mais ils devraient, s'ils sont sincères, ils devraient écrire un deuxième. Après la guerre, 1919 à 23, voilà la troisième vague d'immigration juive, principalement en provenance de Russie. Ésaïe 49, 12. Voici ceux-ci viendront de loin, et voici ceux-là du nord. C'est remarquable comme la Bible est si précise. Mais en 1939 à 45, la Deuxième Guerre mondiale. Encore pire que la Première. Et pendant cette guerre, on détruit en Europe 6,5 millions de Juifs. Et en 1945, lorsqu'on a ouvert les camps de concentration, le monde civilisé était sous choc. Et on s'est dit, maintenant, il faut résoudre le problème juif, la question juive. Il faut maintenant un État juif. Où? En Palestine. Alors, puisque la Société des Nations n'a pas aidé à éviter la Deuxième Guerre mondiale, on l'a annulé. On a fondé une meilleure organisation, l'ONU. Et voilà, après la guerre, l'ONU a été fondée et une des premières rencontres importantes était en 1947 où on a voté en vue du plan de partage de la Palestine de l'ONU qui était accepté par la majorité. Mais, n'est-ce pas, il y avait encore 23% de la Palestine. Mais l'ONU a dit, on ne va pas donner tout ça aux Juifs. On va encore une fois diviser le pays. Et voyez seulement, les territoires clairs seront dédiés pour un État juif. Et sur le reste, on voulait construire un autre État palestinien, un second. D'ailleurs, là au sud est le désert du Negev. Donc, on a dédié 12,6% de Palestine pour les Juifs. Et le monde islamique est enragé. Jamais. Si on va fonder un État juif sur un territoire qui était depuis le 7e siècle islamique, qui est Darul Islam, donc un territoire vraiment islamique, alors il est impossible selon l'enseignement de l'islam orthodoxe de Al-Mawardi du 12e siècle, impossible que des non-musulmans règnent sur Darul Islam. Donc, n'est-ce pas, il n'y avait pas encore la question de Cisjordanie, la bande du Gaza. Mais ça ne dépend pas de ça. Un territoire islamique ne doit jamais être régné par des juifs, par un État non islamique. Cela explique pourquoi on a dit non, jamais. Mais les nations civilisées du monde ont dit oui. Vous voyez, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, à cause de la destruction de plus de 6 millions de juifs, il restait dur. Aujourd'hui, ça serait impossible. Donc, c'était une conséquence directe de la pire des guerres de l'histoire humaine. Et le 14 mai 1948, Ben Gurion annonce par la radio, « Voilà l'État d'Israël. 2000 ans ont passé. Quand le temps est venu pour Dieu, nul ne peut résister. » Mais le 15 mai 1948 déclenche la guerre d'indépendance. Invasion de troupes venant de l'Irak, de la Jordanie, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, du Yémen. Une guerre terrible pour exterminer les Juifs après ce que les nazis ont fait en Europe. 6 000 Juifs, à l'époque c'était 1% de la population, a été tué dans cette guerre. Mais après environ un mois, Israël était sur l'offensive contre toutes ces armées. Voilà le psaume 84, c'est accompli. Ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'il ne soit plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Donc la Bible savait déjà à l'avance ce qui va venir. Voilà quelques impressions de cette guerre terrible. Et l'ONU a simplement regardé, n'a pas aidé. Oui, à l'époque, l'armée israélienne n'était pas très fantastique. Mais ils n'avaient pratiquement pas d'armes lourdes et seulement quelques avions. Et donc, cette armée officielle avec des armes lourdes et des avions viennent contre eux. Il fallait simplement survivre. Et voilà, lorsque Israël était sur l'offensive et a gagné beaucoup plus de territoire, l'ONU a promulgué une armistice. Juillet 49. Les conséquences, le territoire national d'Israël a agrandi, comme vous voyez sur la carte. La Jordanie annexe la Cisjordanie avec Jérusalem-Est et le Mont du Temple. Cela a été jamais reconnu par l'ONU, mais ils ont conquis la Cisjordanie, et ils ont dit c'est la Jordanie maintenant. On n'a plus jamais parlé dans les années qui viennent d'un État palestinien. C'était la Jordanie. Et les Juifs qui ont vécu en Cisjordanie étaient pendant cette guerre massacrés ou expulsés. Donc la Cisjordanie est devenue, comme les nazis ont dit, Judenrein, sans Juifs.